thank you for your kind words. Sorry, I will speak English because my French is terrible. You will forgive us. Thank you to Professor Olivier Beau for having invited us. And thank you to the Institute Michel Villiers. We are very happy to contribute to such an interesting colloquy together with Emanuele Conte. We have prepared together the paper of today, so I will speak for the first part for 25 minutes, and then Emanuele Conte will do the second part. In his famous article on the creativity of the artist, published in 1961, Ernst Kantorowicz saw in the attribution of extraordinary powers to the Pope during the 13th century the origin of the radical emancipation of medieval thought from the domination of nature and divine will. The ability of creating from nothing, assigned to the Pope by canon law around 1220, and the comparison of this capacity to the device of legal fictions in Roman law, played, according to Kantorowicz, a decisive role in arriving at a new conception of creativity. A creativity finally free from the constraints in which medieval thought had confined it for centuries. Literary fiction and juridical fiction were notoriously linked in the thinking of Kantorowicz, since they qualified, in his views, an idea of political and artistic sovereignty that marked an important turning point in late medieval thought. The importance assigned to fiction by Kantorowicz goes, however, beyond this specific historical function and pervades, in a way, his entire way of thinking. In the words of Alain Bourreau, Kantorowicz, Histoire d'une historienne, fiction is the keystone of the political theology of Kantorowicz, who intentionally contrasts the exaltation of nature by the Nazi jurist with the model inscribed, as Professor Beau said this morning, dans le langage de la rationalité, inspiré du modèle intellectuel et non substantiel de la religion. According to Bourreau, even if Kantorowicz extensively relied on the fonction libératrice of Roman law to justify the novelties that appeared in the political conceptions of the 13th century, he assigned to the new canon law definition of the Pope's power to the so-called plenitudo potestatis, the beginning of a new way of thinking. On the role assigned to fiction and to Roman law by Kantorowicz has returned more recently Victoria Kahn in her paper Political Theology and Fiction in the King's Two Bodies, now became, I think, a chapter of her book, who saw Kahn in the thesis of Kantorowicz the expression of his clear opposition to Carl Schmitt and Ernst Cassirer. At the conclusion of his work on Fictio Legis in 1995, Jan Thomas criticized the main thesis of the article by Kantorowicz, considering his debt to canon law to be excessive. In the view of Jan Thomas, the fiction in Roman law, revitalized, exhumed by the new Roman law experts during the 13th and 14th centuries, would have contributed to questioning Christian domination of nature to a far greater extent than the theological and canon law stimuli called into question by Kantorowicz. According to Thomas, the study of the Justinian texts and the knowledge of the Roman legal technique of fiction, consisting in the continual denial of the truth, would have transmitted to medieval jurists the most subversive spirit of classical jurisprudence. Only by force of this subversive spirit, medieval civil lawyers would have arrived at daring formulations, such as that coined by the famous lawyer of Bologna, Azzo, in the first decades of the 13th century, according to whom interpretation and fiction of the law were synonymous. The emphasis placed by Bourreau on the fascination exerted on Kantorowicz by the intellectual, not the substantial, component of religion highlights exactly the aspect to which I wish to return today. The research I've been conducting for 2 years on the meaning of fiction in canon law has led me to re-examine the sources around which this indirect debate between Kantorovic and Thomas took place, and to contextualize them, to contextualize the sources in a broader context of both canon and civil law works. From this broader background of sources, I believe on the one hand that canon law sources cited by Kantorovic can be interpreted more deeply today, and on the other hand that words such as fictio or interpretatio, under a patina of classical terminology, hide actually meanings very different from those we would be led to assign to them today. I will focus then today on 2 points. First, a re-examination of the most salient statements of the canonists of the first half of the 13th century, in which, according to Hans Kantorovic, appear the words that inaugurate a new sense of man's creativity. Second, a different explanation of why the great medieval civil lawyer Azzo, starting around 1210, argued that interpretation and fiction were two synonymous terms. These two arguments, incidentally, are the two main points on which is based the criticism of the thesis of Kantorovic made by Jan Thomas. So, first point. The passage of canon law that had attracted the attention of Kantorovic was an innovative formula used by the canonist Tancred around 1220, who, commenting an epistle of Pope Innocent III concerning the Pope's powers over an undue transfer of bishops, used the expression to create from nothing, de nihilo facit aliquid ut Deus. This new ability of creating from nothing that the Pope developed as vicar, as vice of God, was to be compared, according to the medieval canonist Tancred, to the ability of Roman law to imagine the existence of things that did not exist. For this reason, Tancred quoted in the same passage a constitution of the Roman law of the Codex Justiniani, according to which, in order to claim dowries, one could presume the existence of a previous stipulatio, even if the stipulatio in reality had never been done. The words of Tancred, later taken up by other canonists, appear to Kantorovic to anticipate not only the idea of the fullness of papal powers that will be further developed in the second half of the 13th century, but also a creative independence. This new creative independence, which originated then in the hierocratic ideas of 13th century canonists who equated the Pope with God, would then migrate to the literary and artistic world of the late Middle Ages. And in this way, the conception of free and non-imitative creativity, de nihilo, would have anticipated by a couple of centuries an attitude that we generally assign to the Renaissance. Both Kantorovic and Thomas interpreted the apparently incongruous mention of Roman dowries in this context as a tribute by the medieval canonist Tancred to the idea of Roman fiction. I share their opinion, but in order to understand the presence of the reference to the dowries, it is important to value a category actually unknown to both Kantorovic and Thomas, namely that of the fiction of canons. Around 1180, an articulate gloss by a canonist active in northern France began to circulate in canon law, theorizing for the first time the existence of fictions in the canons of the church. According to this author, whose initial W is actually all we know since his name is unknown, so according to W, There were 9 reasons why canons pretended that things that exist do not exist, or things that do not exist, exist. 3 elements of this gloss are of great interest. Firstly, the fact that after centuries, the term fictio does not have a negative meaning in ecclesiastical thought. Second, that these 9 types of canon law fictions are not inspired by Roman law, but start from an entirely theological idea of fiction. Third, that the gloss of W, dated by Rudolf Weigand, who is also the person who has edited it, dated by Weigand to about 1176-1177, is perhaps the earliest evidence we have of interest in fictions in the medieval legal world as a whole. As far as we know, the first expert of civil law to be extensively interested in fictions, Roman law fictions, in this case, of Fictiones Iuris, was in fact Pilius de Medicina, whose first, in his Libellus Disputatorius, whose first draft dates back to years after 1181. So we are 4 or 5 years earlier. But let's see what it consists of, the canon law fiction. According to the examples given by W that are listed here, canon law fiction occurs when there is no coincidence between will and effect, when there is a discontinuity between intentions and concrete results. The main function of canon law fiction is therefore to signal, to highlight, the distance between what has actually happened in material life and the real reason why an event has occurred. The subject of the transfer of bishops is of great importance in the context of these fictions, because transfers of bishops were very frequent in the 12th century, despite the absolute prohibition of the canons. Since the 4th century, the church canons repeated that it was forbidden for the bishop, under any circumstances, to transfer from one see to another. The gloss of W therefore aims at explaining why an action condemned by the church does not actually compromise the soul of the person who has performed that action, in this case, the transferring bishop. According to W, when the bishops do not move out of ambition for their own will, but out of necessity or out of utility or compulsion, should not be condemned because it is as if they never moved. For these reasons, the action without intentionality was to be qualified as a fiction, a fictio canonis, which had the power to cancel real events on the basis of the principle of non-intentionality. So the bishop who transferred for reasons beyond his control, it was as if had never moved for a fiction of the canons. Similarly, the executor of a capital sentence who killed a man by a superior order, it was as if had not committed that action, the execution, because it did not depend on his will, and so on. The sin existed, but the person who committed it, not actually committed it. Since sin only occurred when it was committed with the will to commit it, so intentionally, if the will, if the intentio was absent, the act was also pretended not to have existed by the canons. The gloss of W will be very successful, and it will be adopted by numerous canonists in England, France, and Italy, becoming part, even if slightly reworked, also of the glossa ordinaria, that is the official apparatum to the Decretum Gratiani. The great success was partially guaranteed by the enthusiasm with which the fictions of the canons were welcomed by a well-known Italo-English canonist called Simon of Bisignano, also known as Simon of York, who in his famous Summa in Decretum had added to the gloss of W an annotation of great interest. The transfers of bishops, as well as their deposition, states Simon, was one of those causes of fiction that was exclusive competence of the Pope. So, by qualifying the transfer of the bishops as a fiction, precisely because of that gap between will and result that, according to W, could nullify an event insofar as it was involuntary, so by qualifying the transfer of the bishops as a fiction, and subsequently transferring this power from the canons to the Pope, as Simon of Bisignano began to do, by reserving it exclusively for the pontiff, the field was ready, the ground was broken, that would lead 13th century canon law to qualify plenitudo potestatis as the power to create from nothing what does not exist and to change the nature of what exists. If the bishop was as if he had never moved, the Pope, as vice deus, as deputy of God, became the one who could change the qualification of behaviors and actions. The fictions of the canons deal with many other matters, but we are particularly interested in those concerning the deposition and transfer of bishops, because it was precisely such a case that inspired the canonist Tancred to make the gloss then enhanced by Ernst Kantorowicz. In the gloss, Tancred in fact exalted the powers of Pope Innocent III, who had intervened in the case of the deposition of some Breton bishops. Other bishops had been elected in their place, but the election of the new ones had been contested because their predecessors, the Breton ones, had not been deposed by the competent authority. So, on the basis of a null deposition, since the Breton bishops were still in office because they had been illegally deposed, the Pope, Innocent III, recognized an invalid election. And so he de nihilo facit aliquid. This is the meaning of the passage. In the light of what we have seen, I think that Tancred was prompted to compare this case to the constitution of the Justinian Code, according to which a stipulatio was imagined to have taken place for a fiction, because Tancred wanted to compare a canon law fiction with a civil law one, in accordance with the classic spirit of canonists of drawing up lists of canons in order to compare them with Roman constitutions. This attitude can also be found a few years after Tancred in the work of another well-known Italian canonist named Goffredus from Trani, who in his Summa Supertitulos Decretalium listed a series of Roman law fictions, and first and foremost the one on the dowries, and then made a comparison between Roman and canon law fictions in marriage. So, in the light of this, long argument, I think it is worth re-examining the words with which Jan Thomas referred to the thesis of Ernst Kantorowicz.
Autrement dit, le premier canoniste à avoir utilisé la formule créer à partir de rien ce qui n'existe pas, emprunté ou décréé, l'ont fait à travers les définitions de la fiction juridique telles qu'ils pouvaient les trouver chez les civilistes.
While it is true that the sentence de nihilo facit aliquid appears in a passage by St. Ambrose, quoted in the Decretum Gratiani, it is not from the Decretum that comes the fictio canonis, but from the Anglo-Norman gloss of W, most likely influenced by the philosophical theological schools of Paris. Canon and civil law began to take an interest in the juridical instrument of fiction at the same time, but it was in all probability at the encouragement of canon law classifications that civil law experts began to catalog Roman law fictions, certainly creating extraordinarily rich and articulate lists, influenced, however, by canon law visions. I also think that it needs to be more articulated, the idea of Jan Thomas, according to which de sorte que, contrairement à ce que l'on croit souvent, ce n'est pas ou théologien que les canonistes impunteraient directement cette formule
de la toute-puissance comme puissance de faire et de faire, mais bien aux civilistes, dans leur théorie de l'interprétation fondée sur et assimilée à la fictio iuris.
I will do it briefly, addressing the second point I mentioned at the beginning, namely through a different explanation of why the great civil law expert Azzo, from around 1210 onwards, argued that interpretation and fiction were two synonymous terms. The original assimilation of fiction to interpretation, made by Azzo in Bologna in the early 13th century, has rightly attracted the interest of Jan Thomas, since it was a new statement that had a large following. Azzo mentions fictions in the prologue of his Summa Codices, a work that knew a very intense manuscript circulation and that was one of the most widely reproduced legal texts by 16th century printers. In the prologue of his Summa, Azzo makes an introductory explanation in 5 points in which he presents the title of the work, his Summa, the subject, the intention, the utility or end, and the doctrinal area in which the work was situated. This construction of the prologues was introduced in the 12th century by literary works, which adopted the structure of Boethius' prologue to the Isagoge of Porphyrios. Legal and theological works took over this model from literary works, a model that could be applied to works such as the Summa Codices of Azzo only at the price of some compromises. For example, the nomen auctoris, the name of the author of the codex, Azzo initially explains, could only be the name of the emperors, since they were the persons who had promulgated the constitutions collected within the Codex Justiniani. Consequently, if the emperors were the authors of the work, the intentio, the voluntas of the authors, could only correspond to the will of the emperors. In order to explain what the intention of the emperors consisted of, Azzo lists 55 allegations of the Corpus Iuris Civilis, containing interventions in which the will of the emperors becomes manifest by making exist elements that in law are absent, or by removing from the law elements that are present. This is how the interpretations of the emperors became fictions for Azzo, because the emperors, through the power of interpretation, could remove or add to the law what was or was not there. Azzo expressly says that such interventions were dictated by equitas, that is, they always arose from the identification by the emperors of the right principle, even if it was not written. Interpretatio, therefore, represents the instrument to achieve the transition from unjust to just, de iniquo ad equum, which according to these juries was performed by interpreting as written was what was not written, or as unwritten what was written, that is, by creating fictions. We are faced here with a very original conception of fiction. For the great civilist Azzo, fiction is not a negation of reality, but an integration or modification of reality carried out always and only for a just reason. So an ethic concept of fiction. The convergence of equitas and fiction is almost all medieval. There are sporadic reports of fictions that appealed to equitas in Roman times, but these were exceptions aimed at introducing principles that were foreign to the logic of civil law. On the contrary, from the late medieval law professors Bartolo of Sassoferrato and Baldo de Ubaldi, passing through the Renaissance jurist Andrea Alciato, up to the 18th century legal doctrine, the entire tradition of jus commune will remain firmly bound to the principle established by Azzo, according to which the cause of fictio iuris, the reason of fictio iuris, is equitas, according to which fiction was dictated by the ethical need to apply Christian equitas to the law through the interpretation of the imperators. In conclusion, it is undeniable that the great nonchalance of the Roman world with reality and nature contributed through the extraordinary material of legal fictions to encourage a liberation of medieval legal thought from the narrow constraints of natural limits. The perspective of Jan Thomas, who looked at the Middle Ages with the eyes of the antiquist, was in this sense deeply instructive. However, to ascribe the innovations of medieval legal thought entirely to classical artificiality would risk evoking a humanist spirit, casting an unnatural cone of shadow over so many centuries of the history of Western thought. The point, of course, is not to establish which of these two great scholars was right or wrong, and still less to imagine a competition between Christian and classical thought. The papal powers on the one hand and fiction on the other are not the radical expression of diametrically opposed extremes, but the medieval synthesis of a great heterogeneity of cultural stimuli which cannot be purified by centuries of Christian thought. The contested theological matrix of the power to do and undo, supported by Kantorowicz, therefore, still deserves to be discussed. I finished.
Oui, merci. Je reviens à ma sorte de français, qui n'est pas exactement le français de Molière, mais c'est, je reviens un peu vers la langue du pays. Et alors cette opposition dans ça vient de montrer des éléments à partir des sources et à partir des commentaires d'un côté de Jan Thomas et de l'autre côté de Ernst Kantorowicz, selon nous, peut se retrouver interprété d'une façon proprement historique dans le grand livre de Kantorowicz sur le décor du roi et dans d'autres articles qui sont à côté. Je dis d'une façon historique parce que c'est évident que la construction du livre roule autour d'un passage qui se met en place, selon Ernst Kantorowicz, vers 1100 et qui passe d'une vision de la royauté centrée sur l'image du Christ vers une royauté centrée sur l'image de la loi. Cette vision ancienne de la royauté à l'image du Christ est fondée dans les sources du premier Moyen-Âge depuis au moins l'âge wisigothique. En effet, dans le royaume des Wisigoths, au VIe siècle, se mettait en place un ordre juridique parfaitement sacerdotal qui s'appuie sur des canons conciliaires qui, de leur côté, passent dans les grands recueils de droits canoniques du Haut Moyen-Âge et continuent d'influencer la pensée politique et proto-juridique, je dirais, de l'Europe médiévale. Alors voilà que dans la description de cette vision ancienne de la royauté, Kantorowicz se concentre sur une source tout à fait particulière, ce qu'on appelle l'anonyme normand, qui est un recueil de traités qui se sont conservés dans une seule copie, dans un manuscrit préservé au Corpus Christi College de Cambridge, qui est désormais mis en ligne avec une reproduction très belle, vraiment, et très lisible. D'ailleurs, c'est un seul exemplaire, donc apparemment l'ouvrage n'a pas circulé, et donc aux yeux de Ernst Kantorowicz, il s'agit de la dernière tentative de défendre une vision de la royauté qui venait d'être mise de côté à cause de la victoire du parti qu'il appelle hiérocratique de Grégoire VII, qui voulait distinguer nettement le pouvoir sacerdotal du pouvoir séculier afin d'affirmer la prééminence du pouvoir sacerdotal sur le pouvoir séculier. Donc, ce titre de vicaire du Christ qui avait été adopté par le roi jusqu'au siècle XIe devient pertinence exclusive du pape. Mais par contre, au Moyen Âge et jusqu'au XIe siècle, c'était les rois qui représentaient la royauté divine et humaine du Christ sur la terre. C'est pour ça que nous avons entendu du professeur Schoettler la rencontre entre la vision de Ernst Kantorowicz, ou peut-être la rencontre manquée, et celle de Marc Bloch, qui avait naturellement souligné cet aspect justement liturgique de la royauté médiévale. Mais c'est justement le pouvoir que le roi avait de faire des miracles qui marque cette Christ-centered kingship dont parle le chapitre 3 de Kings to Bodies. Le roi peut donc subvertir la nature par la voie sacrée du miracle. Et c'est pour cela que ce roi n'a pas besoin de confier ses décisions à une normativité objective. Ses interventions ne se fondent pas sur des lois. Et elles ne créent pas une casuistique contraignante du point de vue normatif, car le Saint-Esprit éclaire chaque décision cas par cas en lui permettant de poursuivre la justice du cas concret. Le roi vicaire du Christ donc a le pouvoir de créer ce qui n'existe pas et le pouvoir de faire disparaître ce qui existe, mais comme le Christ et comme les prophètes de l'Ancien Testament, ce roi ne créent pas des mondes fictifs une fois pour toutes. Ils interviennent cas par cas en jugeant le cœur des fidèles et en évoquant une justice qui n'est pas constituée en forme de droit, mais évoquée par l'autorité sacerdotale du roi. Alors, en dépit des efforts de l'anonyme normand, cette vision de la royauté se voyait rapidement remplacé par ce que Kantorowicz appelle la « law-centered kingship ». Je cite de l'original parce que je n'ai pas la traduction française du livre. « As opposed to the early liturgical kingship, the late medieval kingship by divine right was modeled after the Father in heaven rather than after the Son on the altar, and focused in a philosophy of the law rather than on the still antique physiology of the two natured mediator. » Je dirais que, avec ce tournant, c'est le modèle de Justinien qui triomphe sur le modèle cicéronien dont je viens de lire un passage dans cette salle, Est quidem ver Alex recta ratio. C'est-à-dire, et ce n'est pas par hasard que Cicéron a été copié dans les manuscrits pendant tout le Haut Moyen Âge, tandis que Justinien ne l'a pas, et que Justinien reprend d'être reproduit justement à la fin du XIe siècle, je dirais exactement à l'âge de l'anonyme normand. Et la vision cicéronienne, c'est la vision d'une raison dirigée, d'une raison, commandée par la sagesse et par la justice, mais qui ne se concrétise pas dans une loi émanée par le législateur. Donc la vraie loi n'est que la raison qui s'applique cas par cas à la réalité, sans la changer une fois pour toutes. Alors, c'est en ce moment historique que la norme juridique devient la mesure du monde. Et c'est à cause de ce changement de perspective que l'ancienne compilation de Justinien fut récupérée pour fonder une culture juridique et politique tout à fait nouvelle. En effet, la grande œuvre de Justinien avait été soit oubliée, soit utilisée d'une façon rhapsodique, sans que les scribes ne prennent la peine de la copier intégralement et sans que le savant accomplisse l'énorme tâche de l'étudier en son entièreté. Mais juste quelques décennies après l'anonyme normand, comme l'écrit Kantorowicz, la mutation de la liturgie au droit devient évidente. Alors c'est exactement l'évaluation historique de ce tournant de l'histoire des concepts en Europe qui pousse Kantorowicz à se tourner aux sources juridiques et à s'emparer de la connaissance de l'histoire du droit et en particulier de l'histoire du droit savant de l'Europe médiévale. Et il le fait avec une compétence, une profondeur qu'étonne même le porte-parole de la grande tradition de la Rechtsgeschichte allemande, Erich Genzmer, qui, après la guerre, passait pour l'un des plus spécialistes de l'âge des glossateurs du droit romain. En 1961, il écrit à Kantorowicz pour le remercier de l'envoi d'un tiré à part de l'article sur l'impact de la jurisprudence savante sur la royauté médiévale, que Kantorowicz avait écrit juste après la publication des Kings to Bodies en 1957, mais qu'il n'avait pas pu lire au congrès de Madison, Wisconsin, de novembre de cette année, parce qu'il avait été soumis à une opération chirurgicale. C'est intéressant que ces congrès aient été consacrés à travailler sur l'Europe au XIIe siècle et les fondations de la société moderne, c'est-à-dire cette modernité du XIIe siècle qui avait été approfondie déjà, évidemment, et venait à l'esprit de la médiévistique américaine autour des âges de la publication des King's Two Bodies. Et alors, Genzmer, en écrivant à Kantorowicz, sa lettre n'est pas éditée, mais disponible sur le site de l'archive Kantorowicz, écrit que ce n'est pas vrai, comme Kantorowicz disait, qu'il n'avait pas appris la jurisprudence. Non, c'est vrai qu'il n'avait pas appris la jurisprudence lorsqu'il était jeune, mais il s'était formé une compétence parfaite, il dit Genzmer als Erwachsener, déjà grand, et que maintenant il se trouvait parfaitement zu Hause dans les Cunabula Jurisprudentiae. Donc, même le grand Genzmer reconnaissait ce savoir juridique que Kantorowicz avait acquis. Et alors, c'est pourquoi il le fait ? Parce que, à son sens, ce passage historique est absolument fondamental pour comprendre la mentalité, je ne dirais pas seulement du Moyen-Âge tardif, mais de la civilisation occidentale. Alors, Yann Thomas, dans sa critique que Sarah vient d'évoquer, n'a pas souligné cet aspect proprement historique de l'intérêt de Kantorowicz pour la question de la fiction. Il insiste plutôt sur l'irruption de la puissance très humaine de la majesté législative dans la mentalité médiévale, qui arrive à l'admettre comme force créative et transformatrice de la réalité, à côté de la toute-puissance divine. En ce sens, pour Yann Thomas, le modèle de la législation romaine est vraiment révolutionnaire dans le cadre de la culture théologique médiévale. Mais, à mon sens, ce n'est pas en contradiction patente avec la vision de Kantorowicz, car pour lui aussi, L'irruption de la royauté centrée sur le droit amène à mettre de côté l'image du roi prêtre qui s'est réalisée dans les royaumes du haut Moyen-Âge à partir du modèle wisigothique. Et d'ailleurs, Kantorowicz était bien conscient que le tournant historique représente des moyens d'économie mentale pour les historiens et que les mentalités du passé résistent longtemps et parfois reviennent à distance de siècles, comme c'était le cas d'une vision théologique de la politique formée pendant le Moyen-Âge qui was to remain valid until the 20th century, comme il écrit dans la préface de The Kings to Bodies. Donc la fiction canonique dont a parlé Sarah reflète cette résistance du modèle ancien de la souveraineté où le roi sacerdote, image du Christ, mobilise son pouvoir sacerdotal non pour créer des fictions juridiques par la force de la loi, mais pour modifier la réalité à partir de son jugement sur l'attitude subjective des acteurs qui ont produit les faits. Le passage d'Innocent III, en glosant lequel Tancred avait formulé la théorie de la toute-puissance du pape Tamquam Deus, est tiré, comme toute décrétale, d'une décision sur un cas complexe que le pape juge en exerçant sa fonction de juge suprême. Si la justice mobilisée par la fiction législative romaine est une justice objective, que la loi mobilise une fois pour toutes, la justice pour laquelle la fiction du droit canonique modifie les faits est la justice subjective du cas concret. Par exemple, l'évaluation des sentiments individuels qui ont motivé l'agent peut modifier la qualité des actions réalisées, jusqu'au point d'en annuler l'existence juridique. Bien entendu, lorsque cette toute-puissance du pape juge suprême est déposée sur les pages des collections officielles des décrétales, elle forme aussi un principe général que tout juge ecclésiastique peut adopter dans son activité juridictionnelle. Mais à l'origine, ce pouvoir de regarder dans le cœur des acteurs est proprement sacerdotal, est arbitraire, est pastoral. Par contre, le pouvoir de traiter les faits objectifs comme si ils étaient différents de ce qu'ils sont, en réalité, dérive du modèle romain. Le discours retombe donc sur cette phase de passage entre le monde liturgique de la justice pastorale et le monde nouveau de la logique juridique fondée sur la norme. La dispute sur l'équité entre les juristes bolognais de la deuxième génération, simplifiée par les sources comme l'opposition entre Bulgarus et Martinus, exprime finalement cette rencontre difficile entre deux perspectives opposées. Les fictions romaines, pour Bulgarus comme pour Ian Thomas, sont produits du pouvoir de la norme, qui façonne l'équité rudis pour être appliquée par le juge, tandis que les fictions canoniques sont réalisées par le juge, qui fait recours direct à l'équité du cas. C'est seulement après coup que le principe de justice appliqué par le pape au cas concret devient critère normatif à considérer dans les affaires à venir. Il y a par contre des fictions formulées par des canonistes qui dépendent beaucoup plus de l'influence du droit romain. Je veux me référer au cas célèbre de l'invention de la persona ficta par Innocent IV, Sinibaldo de Fieschi. Là, le point que je trouve est important à souligner est que cette construction fictive de la personne faite dans la doctrine vers 1240-50 répond à des critiques violentes qui ont été levées par les glossateurs du droit romain contre une autre façon de voir les droits et l'activité économique des établissements ecclésiastiques. Cette autre façon, la plus ancienne, c'était une solution non fictive, mais très réelle. C'était d'attribuer les droits, non pas à une personne fictive, mais au bâtiment de l'Église ou bien à l'autel qui englobait la relique. Donc il y avait une titularité tout à fait réelle et pas du tout fictionnelle. Mais cette construction ne pouvait pas remplir les conditions établies par le droit romain pour qu'un sujet puisse posséder et disposer de ses biens. Un bâtiment ne peut pas avoir un animus, ni une volonté dispositive, disent les juristes du droit romain de la fin du XIIe siècle. Voilà donc la doctrine juridique canonique qui se mobilise, mais encore qui mobilise la force de la loi pour imposer la création de la personnalité juridique et créer un sujet fictionnel qui n'est pas réel, mais répond aux réquisits demandés par la loi pour être sujet. Et c'est sur cette histoire, présentée comme exemple de casuistique juridique, que Jan Thomas a rencontré encore une fois Ernst Kantorowicz dans son dernier article sur la communauté disparue. Je vous remercie.